Bonjour, l'invité du magazine est le professeur Meïssa Bey, docteur en sciences de l'éducation. Meïssa Bey a participé dans le cadre de Sénégal, un pays des rencontres, un temps fort de l'espace Cosmopolis de Nantes, à une table ronde sur le thème « La pédagogie Freinet au Sénégal ».
Je suis professeur d'université à la retraite, ancien expert de l'UNESCO, qui a travaillé également avec l'ISESCO. Je suis revenu dans mon pays, le Sénégal, précisément à Rufisque. Et en 2009, j'ai été appelé à occuper, suite à des élections municipales, les fonctions de premier adjoint au maire que j'ai tenu pendant 5 ans, chargé de la coopération internationale. Ensuite, notre mandat s'est terminé, mais j'ai été reconduit comme conseiller municipal et l'actuel maire de la ville de Rufisque, avec qui je me suis lié d'amitié depuis ma tendre enfance, a jeté son dévolu sur ma modeste personne pour que je sois son conseil spécial en charge de la culture, du tourisme et du patrimoine depuis 2 ans.
On va parler de sciences de l'éducation.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette discipline ?
Ben écoutez, d'abord je suis né d'une famille modeste, étant fils unique. Mes parents étaient assez vieux. J'ai fait parallèlement à l'école française des études dans les écoles coraniques. Mon père ne me destinait pas à être enseignant parce qu'il n'a pas fait l'école. Ma mère non plus. Et à 18 ans, je termine mon brevet scolaire. Je demande à mon père l'autorisation de m'inscrire à l'école des cadres ruraux pour devenir ingénieur agronome. Il me dit, nous sommes vieux, ta mère et moi, il faut que tu ailles au travail. Le cœur meurtri, je suis allé embrasser le métier d'instituteur qui m'a donné beaucoup de satisfaction parce que je suis rentré très tôt, à l'âge de 18 ans, et j'ai découvert un monde passionnant et passionné. Et à force de travail, du grade d'instituteur adjoint stagiaire sorti de l'école normale William Ponty de Sébucotan pour la dernière promotion en 62. Je suis devenu instituteur adjoint en 69. Puis en 70, j'ai terminé par le grade d'instituteur plein. Je n'avais plus de soucis par rapport à ma carrière et j'avais ma soif d'apprendre. J'ai préparé le bac tout seul. Et en 71, je me suis inscrit à l'Université de Dakar, concomitamment à mes charges d'instituteur, pour préparer un duel en lettres modernes, puis une licence bilingue français-anglais que j'ai eue en 78. Et j'ai également préparé une maîtrise S-lettres, à la suite de quoi j'ai été recruté sur titre comme inspecteur de l'éducation. Comme la propédeutique faisait 2 ans, je me suis permis de m'inscrire en linguistique et j'ai pu avoir un CS en linguistique appliquée. Et à la suite de quoi j'ai été affecté dans des centres de formation. D'abord à l'école normale des jeunes filles de Thiès, à la suite de quoi, après 2 ans d'encadrement et d'enseignement alliés en théorie et pratique, j'ai été affecté. Auparavant, j'ai participé à une mission à la suite du décès de Sékou Touré, du recentrage de la formation des enseignants guinéens. Quand je suis revenu après 2 mois d'intense activité de Guinée, j'ai été affecté au nord du Sénégal comme jeune inspecteur de l'éducation, dans un coin très reculé où il fallait relever le taux de scolarisation, animer les cellules pédagogiques et faire en sorte que l'éducation soit une propriété de ces peuples nomades très difficiles à la lisière du Ferlo et de la savane. Après 3 ans, j'ai eu des succès parce que j'étais jeune, j'avais la volonté d'engager un combat pour lever les défis. Ma circonscription a eu les meilleurs résultats du Sénégal et quelques instituteurs de ma circonscription ont été parmi les meilleurs enseignants du Sénégal suite à un encadrement rapproché. Et dans le management pédagogique, j'ai comme j'avais une circonscription scolaire très vaste, j'ai imaginé une forme d'organisation qui rapproche les enseignants de leur chef, ce qu'on a appelé les districts scolaires, qui est une forme de décentralisation du secteur de l'éducation. Et là, j'avais responsabilisé tous mes adjoints que j'ai préparés et ils ont tous réussi à me quitter pour devenir inspecteur. Comme je suis un homme de challenge, j'ai demandé à être affecté dans ma ville adoptive où mes parents sont nés, à Saint-Louis du Sénégal. Après 4 ans de brousse très intense et d'activités pédagogiques qui ne me laissaient pas beaucoup de répit. Et là, je suis arrivé, j'ai trouvé une tradition de rupture par rapport au style de management, parce que l'inspecteur que j'ai remplacé est devenu inspecteur d'académie, et j'avais la charge de relever le défi et de la formation et de l'animation pédagogique. C'est sur ces entrefaites qu'en 86-87, je rencontre un vieux militant du groupe des retraités de France, mandaté par l'ICM, l'Institut de coopérative d'école moderne, et qui était chargé des relations internationales, M. Jean Le Gall. Voilà comment est partie cette collaboration qui dure depuis 33 ans entre M. Jean et moi-même. Un homme de grande qualité, très investi dans le secteur de l'éducation, dans la démocratie participative, et surtout portant encore l'idéal de Célestin Freinet, dont il a été disciple dans les années 62-63, parce que de visu, Freinet est venu dans sa classe. Lors de ma formation pédagogique dans les années 62-63, j'avais un directeur également très curieux qui nous parlait d'innovation pédagogique et de rupture dans la façon de tenir la classe. Et il nous indiquait soit Maria Montessori, soit De Crowley, soit John Dewey, Learning by Doing, soit Célestin Freinet. Alors ça faisait une étincelle dans ma tête et j'étais curieux de savoir ce que faisait Freinet. C'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai vu tout le parcours de Freinet et toutes les ruptures qu'il a adoptées par rapport à la nature de l'enfant et par rapport à la manière de gérer une classe hétéroclite où le maître est le maître de tous les élèves, mais il est le maître de chaque élève. C'est cette dynamique qui m'a poussé à le comparer un peu avec un grand innovateur, Makarenko, dans la pédagogie libertaire, Adolphe Ferrière, et tout cela, l'un mis dans l'autre, parce que je suis un grand lecteur, j'ai dans ma bibliothèque 3000 ouvrages, j'ai parcouru toute la littérature liée à la pédagogie libertaire. J'ai vu l'originalité de Freinet, et nos éducateurs de Pontu nous parlaient également de Freinet. Et il citait particulièrement un jeune enseignant d'Aouméen, aujourd'hui Bénin, du nom d'Eustache Prudencio, qui a expérimenté les techniques Freinet en 1950-51 à Dakar. J'ai dit, écoutez, il faut que moi je vois ce que c'est. Et de manière objective, liée à une propension à la rupture en tant que jeune inspecteur dans une circonscription de ville, j'ai pensé ne pas reproduire ce que je faisais dans la circonscription rurale et ce souhait a rencontré M. Jean Le Gall qui venait porteur d'un message sur les droits de l'enfant, sur la démocratie participative, sur l'autogestion et sur la pédagogie Freinet. Je l'ai invité à faire une conférence devant un public de 300 enseignants que je dirigeais. Et c'est comme ça, c'est parti. Et j'ai laissé mes enseignants expérimenter le texte libre, un peu quoi de neuf, la pédagogie innovante en lecture. Et comme le travail ne ment pas, j'ai eu également dans la circonscription, après 2 ans de travail de rupture, de très bons résultats. Et j'ai encouragé les enseignants à la surformation. À la suite du départ de l'inspecteur d'académie qui m'avait reçu, je suis devenu directeur de l'école normale qui plus tard deviendra école de formation des instituteurs que j'ai dirigé pendant 2 ans. Et comme c'était un espace d'incubation, parce qu'un lieu de formation et de surformation, 2 ans après le passage de M. Jean, je l'ai invité à venir présenter à mes stagiaires, qui étaient au nombre de 200, la pédagogie Freinet. Vous voyez donc comment l'essaimage se fait à partir d'une circonscription et à partir de la circonscription dans une école de formation et la cible diversifiée, chaque élève était porteur du message. C'est cela peut-être que j'ai eu avec beaucoup de chance. Mais surtout, ce qui a été important, Jean avait, en quittant Rezé, souhaité rencontrer une école qui est à 150 km de Saint-Louis, sur le delta, très pauvre, enclavée, une école qui s'appelle l'école de Diawar, qui fonctionnait avec 3 classes. Jean m'y a invité, alors que l'inspecteur de la circon était un ami propre, je lui ai parlé de la pédagogie freinée. Et j'ai demandé à l'inspecteur d'académie d'aider les enseignants à faire des ruptures dans leur pratique de classe. Et ce qui est constant, la marque de l'innovation a fait tache d'huile parce qu'au-delà de l'école, où les enseignants avaient opté des ruptures avec le jardin, le village s'y est greffé et un jumelage, coopération, a été initié entre Rezé et Ragon. Par la suite...
C'est en 87.
87. Et par la suite, ça a pris de l'ampleur au point que le village est devenu un village symbole et un village test par rapport à l'innovation. Parce que c'était devenu, dans la circonscription de Dagana, un espace de travail et d'innovation sur le texte libre, sur le journal de classe, sur les lectures innovantes. Et ça a fait des résultats. Parce que les élèves apprenaient mieux, ils étaient responsabilisés. Et l'année suivante, quand Jean est revenu, alors que les droits de l'enfant avaient été déjà vulgarisés au niveau de Saint-Louis, nous avons pensé qu'il était utile d'initier à la fois les maîtres de l'école normale, les maîtres de la circonscription administrative de Saint-Louis 1, les maîtres d'école arabe à la Convention des droits de l'enfant. Ouais, donc, d'un simple contact, nous avons eu 3 points de chute. La circonscription de Saint-Louis, hein, l'école normale de Saint-Louis, l'école normale de Dagana, puis la circonscription de Dagana. Chemin faisant, nous avons été invités, l'inspecteur de Dagana et moi, au salon des apprentis individualisés, qui nous a confortés à l'idée que le maître mot pour le changement, c'est la formation du maître, mais la centralité de l'élève, c'est ce que nous voyons dans la pédagogie freinée à travers ses invariants. C'est comme ça que quelques maîtres de la circonscription d'Agana ont créé le club freiné. Et j'ai été invité à participer pour la première fois à une rencontre internationale des éducateurs freinés. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de similitudes dans nos pratiques au-delà de technologies éducatives. Je me suis senti donc le devoir d'aider les enseignants du Sénégal en rupture avec les méthodes traditionnelles pour innover, d'autant qu'à l'époque et jusqu'à présent, nous avions des difficultés parce que nos élèves ne savaient pas lire ou bien ce qu'ils lisaient, ils ne le comprenaient pas, le français étant la langue seconde, articulée qui ne l'était pas à la langue première. Alors que dans la dynamique de la pédagogie freinée, toute pédagogie créative doit s'appuyer sur le milieu et l'environnement de l'enfant. Un environnement sécurisant, un environnement incitatif pour que l'élève s'épanouisse à l'intérieur et à l'extérieur de la classe. C'est dans cette optique-là qu'il a été créé un club freiné qui est devenu une association de l'école moderne dirigée par des jeunes instituteurs, parmi lesquels l'ancien directeur de l'école Diawar, quelques-uns de mes anciens stagiaires, et je les ai accompagnés, ne voulant pas prendre la tête du mouvement, mais les encadrant de près. Ils ont écrit une lettre au ministère de l'Éducation nationale pour la reconnaissance du mouvement. On a eu le récépissé avec le ministère de l'Éducation et les échanges sont partis comme ça. Donc, il y a la naissance de l'association sénégalaise de l'école moderne.
La SEM.
Je fais partie des membres d'honneur. J'ai toujours refusé de le diriger parce que mon statut d'inspecteur, je ne voulais pas que cela influe sur l'orientation du mouvement. Et nous avons aidé à implanter la deuxième cellule à Rufusque, à 25 km de Dakar, à Fatick, au centre du Sénégal, à Kaolack, à l'est.
Meïssa Bey, docteur en sciences de l'éducation, est l'invité du magazine.
Aujourd'hui, les classes freinées polarisent près de 500 enseignants et des milliers d'élèves. Et les enseignants freinés partout où ils sont, se signalent par leur, ce que j'appelle leur ligne de masse. Je prends simplement un village dans le Gandiolet, non loin de Saint-Louis, le village de Ricotte, où un de mes anciens sages, Salou Oussard, est devenu directeur. Par le biais de l'école, il a amené l'électricité. Il a permis également des échanges avec un autre village, par le biais de la correspondance, à faire un forage. Et le village est devenu un village électrifié. Comme quoi, si tout partir de l'école, tout peut échapper à l'école et déboucher sur des actions de transformation du milieu. Et c'est cela qu'a compris la direction de l'ASEM en s'impliquant dans le mouvement international de la Fédération mondiale des mouvements freinés, en y adhérant. Je les ai encouragés et je n'ai jamais voulu prendre de poste également par mon manque de temps et par mon militantisme politique parce que je suis de culture de gauche. Ça également, je m'en réclame. Parce que la gauche est pleine de vertus chez nous. Je suis né dans un milieu assez modeste et je pense que c'est à force de travailler, fondé sur l'honnêteté, la droiture, le respect de l'autre, la considération de l'altérité, on est porteur de valeurs de changement. Et c'est cela qui m'anime au point que je ne veux jamais dans ma vie dire aux gens « aidez-moi à diriger ». Je préfère toujours travailler en équipe. Et pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé l'École normale de Saint-Louis avec beaucoup de succès, à la fois nationaux et internationaux, par la qualité de l'expertise. Et j'ai été invité à différents fora au niveau national, au niveau international. J'ai été une personnalité adulée et décorée par mon ministère, mais tout en gardant mon humilité, sachant que je suis tributaire d'une formation éclectique. Quand en 90 donc l'université de Saint-Louis s'est ouverte, ma soif de savoir m'a poussé à faire un DEA en littérature africaine orale avec une spécialité fondée sur les réalités nationales, l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif. Ce qui m'a valu une distinction qui m'a permis après ma retraite d'être recruté comme expert à l'UNESCO. Et j'ai, pendant mon séjour à l'UNESCO par rapport à la qualité de l'expertise, préparé également au CEPEC de Craponne à Lyon, un DSS puis une thèse en sciences de l'éducation. Ce qui fait que je suis à la fois bilingue, tributaire d'une formation littéraire, mais également pédagogue de son métier. Je pense que l'éducation m'a tout donné et en conclusion de ma conférence, je dis que j'aime l'éducation comme on aime une femme, parce qu'elle m'a tout donné. Alors donc, de retour, j'ai eu un contrat donc avec l'UNESCO pendant 4 ans, ce qui m'a permis de découvrir l'Afrique. J'ai épuisé 7 passeports, parce que chargé de programme sur l'inclusion. J'ai travaillé avec une femme remarquable qui est actuellement à Paris, qui est chargée de programme par rapport à l'inclusion et la prise en charge des personnes à mobilité réduite, des personnes. C'était là mon domaine de prédilection que je ne connaissais pas. Et nous avons été les premiers, en 2001, à lancer la déclaration de Salamanque sur, après la conférence de Dakar sur l'éducation pour tous, la problématique de l'inclusion des personnes en situation de handicap, les enfants et les adolescents à besoins spécifiques. Donc, mon horizon s'est élargi. Et j'ai sillonné l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est pour porter la bonne parole de ce programme. Et ce qui m'a valu quelques invitations au niveau du conseil exécutif de l'UNESCO pour présenter mon expérience un peu partout en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun. Et chaque fois, je me suis senti le devoir de rencontrer mes collègues inspecteurs, de rencontrer les ministres pour leur dire, écoutez, nos systèmes éducatifs, c'est nous qui pouvons les changer de l'intérieur en optant avec des ruptures significatives. Le français fait partie de notre histoire, mais on ne peut pas faire d'une pédagogie d'une langue seconde sans s'appuyer sur une langue première. C'est la psychologie cognitive qui le fait. Je leur ai montré qu'en mathématiques, on infantilise les enfants parce que quand vous prenez le système de comptage des langues africaines à base 5, l'enfant qui est au CICP, avec la notion de nombre, s'arrête à 20. Alors qu'avec la base de comptage de nos langues nationales, en s'appuyant sur cet acquis du nombre, les enfants du CICP peuvent aller jusqu'à 100. Voilà des expériences qui m'ont permis, en tout cas également dans la lecture, partir de ce que les lettres qui se ressemblent, dans les langues nationales avec le français pour aller vers les dissemblances et opter pour une lecture qui permette la lecture-compréhension à partir même de la typologie de texte. Donc déjà, avec ma formation littéraire, je n'avais pas de problème pour expliquer ce que c'est qu'un texte argumentatif, ce que c'est qu'un conte, ce que c'est qu'un texte narratif, un texte descriptif. Et là, j'ai apporté un plus dans la façon d'enseigner par rapport à ma formation aux instituteurs sénégalais dans le cadre d'un groupe de recherche que j'ai dirigé en étant chef de circonscription et membre d'un groupe de recherche du ministère de l'Éducation nationale. Et comme les bonnes choses ne finissent pas très souvent, après donc mon contrat à l'UNESCO, militant d'un parti politique, la première alternance du Sénégal, un vieil ami à moi, professeur d'université, a fait de moi son directeur de cabinet. Donc, de l'école élémentaire, en passant par le collège, par le lycée, par l'université, je suis venu superviser un secteur que je connaissais bien pendant 18 mois. C'est un travail intense de conception, de management, de répartition. Je ne connaissais pas un cabinet ministériel. C'était la période la plus dure de ma vie parce que je n'avais plus de vie de famille. Et je recevais 300 lettres par jour, 18 paraffeurs à examiner. Je préparais les rendez-vous. Mais ça m'a formaté à avoir le sens de l'organisation et de la méthode. Donc, si je fais un compte à rebours, il n'y a que le poste de ministre que je n'ai pas occupé dans mon pays. C'est parce que je n'en veux pas. À mon âge, j'ai 73 ans. Je veux réinvestir mon capital d'expérience par rapport à ma ville. Voilà pourquoi, en 2009, on m'a appelé sur une liste de la société civile. J'ai rédigé le programme de mon parti, qui venait de naître 6 mois avant les élections. Et nous avons battu le parti au pouvoir dans la ville de Rufisque et j'ai occupé pendant 5 ans le poste de premier adjoint au maire, chargé de la coopération internationale. Mais cela ne m'empêche pas d'ouvrir à ma guise, sur la sollicitation de 10 collègues, une ONG qui s'appelle CAREF Sénégal, qui fait de la consultance, de l'accompagnement de projets. Et je travaille avec l'UNICEF, avec la Banque mondiale, avec toutes les ONG caritatives ou toutes les ONG qui, dans le secteur de l'éducation, me connaissent du Sénégal, du Canada, de la France, un peu partout. Et j'ai un carnet de dettes assez fourni qui, jusqu'à présent, me permet également de travailler à l'université avec le laboratoire sur les transformations économiques et sociales. Mon dernier programme que j'ai terminé, c'est le programme Diangando sur la qualité de l'éducation, où j'ai fait des analyses très indépendante pour montrer au secteur de l'éducation que nos élèves ne savent pas lire, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, il ne faut pas résoudre des problèmes parce qu'ils ne maîtrisent pas le code de français. Dès le début, c'était le hurrah au niveau du secteur de l'éducation, mais 3 ans après, une analyse internationale du PASEC faite par la CONFEMEN a confirmé les analyses que j'avais faites. Je suis un anticonformiste et je veux toujours faire des ruptures dans les stations où je suis. Voilà pourquoi également l'actuel maire de la ville pendant 2 ans a fait appel à moi. J'ai toujours refusé si je n'avais pas le plein droit d'initiative, de pensée et d'action. Et j'ai exigé qu'il y ait une délibération du conseil municipal, mon nom, conseil spécial du maire en charge du tourisme et du patrimoine. Et à l'alinéa 2 de l'article, j'ai exigé qu'on mette c'est une fonction sans frais au profit de la mairie parce que je veux être un homme indépendant. Et voilà pourquoi le maire me fait confiance et dans la coopération avec la situation de la ville, j'ai pensé à travers une expérience d'incubation d'une vision sur 35 ans, initiée avec d'autres collègues de Rufisque. Ce que j'ai appelé les assises sur le plan directeur urbain de Rufisque sur un horizon de 35 ans. Unique dans son genre parce que fait par des Rufisquois pour des Rufisquois et ces 16 thématiques réparties en des actions prioritaires, séquencées sur 35 ans, avec un budget de 95 milliards. C'est dans cet extrait-là, que, dans cette vision, que j'ai formulé la vision que nous avons de Rufisque, une ville résiliente, au patrimoine rénové et attractif. Voilà un peu donc le méli-molo de mon parcours un peu atypique d'instituteur jusqu'à professeur d'université, adjoint et au maire. Et je n'en arrête pas parce que simplement, je pense que je dois donner à ma ville, à mon pays, ce qu'elle m'a donné. Éduquer vient du concept éducare, conduire vers, quitter un point A pour aller vers un point B. Mais si vous ne connaissez pas vos repères, vous ne pouvez pas décoller. Alors l'indigénéité d'un enseignement est fondée sur la connaissance du milieu. Émile, dans l'éducation, disait « Vous ne connaissez point vos enfants. Ah, si vous ne les connaissez point, vous ne pouvez pas les enseigner. » La connaissance du milieu, le déterminisme du milieu est capital, mais la connaissance du milieu permet de rejoindre Socrate dans le « connais-toi toi-même ». Alors c'est à partir du moment où vous connaissez l'environnement et les déterministes du milieu que vous pouvez avoir un ancrage d'une pédagogie fondée sur la personnalité de l'élève, mais pas une pédagogie sélective, mais une pédagogie vers la réussite. Et la réussite ne peut se faire qu'à partir d'un background, excusez-moi d'utiliser le terme anglais, à partir d'un socle de compétences qui permet au jeune enfant de maîtriser ce que j'appelle les compétences fondamentales. C'est la lecture, le calcul.
Ce qui m'intéresse, c'est la spécificité de l'élève au Sénégal.
L'élève sénégalais est tributaire de trois strates. Il y a l'école traditionnelle qui se meurt, la caste de l'homme, les valeurs immortelles de la tradition. Nous sommes dans une civilisation de contes, nous sommes dans une civilisation de l'oralité. Et de plus en plus, avec l'urbanisation de nos sociétés, cette strate, moi j'ai fait la caste de l'homme qui était une propédéutique, qui permettait d'être endurant. Aujourd'hui, avec la modernité, c'est un pan de notre civilisation qui disparaît. Deuxièmement, l'enfant sénégalais est tributaire de plusieurs types et formes d'une civilisation liée à l'ethnie, liée à la civilisation fondée sur des valeurs, par exemple, les valeurs du courage, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de travail, les valeurs de rigueur, les valeurs de citoyenneté. Figurez-vous que nous, quand nous étions à l'école primaire, on avait encore l'éducation civique et morale. Mais ça n'existe plus. Moi, j'ai fait le scoutisme également, j'ai fait les SMEA. Je savais travailler avec mes mains. À partir du moment où on n'a pas d'ancrage sur sa tradition, on n'a pas un socle qui permet de capter tout le potentiel de l'élève lié à son milieu, à son environnement, il est très difficile de le sortir du point A pour l'amener vers le point B. Alors, ici, greffe que nous partageons 300 ans de civilisation avec la France. Il y a des Sénégalais qui ont comme langue maternelle le français. Alors, moi, je pars du postulat avec mes études de linguistique appliquée qu'on ne peut pas enseigner un enfant une langue étrangère sans s'appuyer sur sa langue première. Ce qui ne veut pas dire que je combats l'enseignement du français. Mieux, je veux qu'on l'améliore. Et ceux qui parlent mieux le français, ceux qui ont maîtrisé mieux leur langue maternelle. J'en ai un exemple type. Je peux parler pendant une heure de temps dans ma langue nationale sans aucun mot de français. Alors c'est ces performances que je souhaite qu'on inculque à nos élèves. Ensuite, étudier un substrat culturel ne s'arrête pas au primaire. J'ai eu la chance d'aller en Lettonie, d'aller en Scandinavie. J'ai vu des étudiants camerounais, j'ai été très surpris. J'ai dit, comment vous faites vos études? Il dit, ils font 5 ans. Les 2 ans, c'est pour apprendre le letton. Et toutes les études se font en langue lettonne.
Il y a combien d'écoles?
Freiné, à peu près, il y a 500 enseignants. Je ne maîtrise pas le nombre d'écoles.
C'est conséquent ou pas?
C'est assez conséquent. Réparti après sur 3 zones, hein, au nord, à l'ouest, au centre. Et nos enseignants occupent maintenant des fonctions hautement responsables dans le CA de la FIMEM et dans la coordination des africaines des écoles du mouvement Freiné. J'ai refusé toujours d'être dans le CA, j'ai refusé également de faire partie des dirigeants, mais je suis un militant Freiné.
Merci au professeur Meïssa Bey, docteur en sciences de l'éducation, pour sa libre participation à ce programme.
Je suis un militant Freiné. C'est là une posture d'humilité pour moi. Parce que je sais que je ne sais rien.
Confucius.